C'est 23.
Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno par excellence au Québec. J'aimerais dire au Canada et en France. Je pense qu'on peut même dire dans le monde. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur
de
dire.
Dans l'univers, vas-y, allons-y, dans le métavers.
Dans le métavers aussi, on aurait une version en réalité augmentée un de ces jours. D'ailleurs, on manque en ce moment même une conférence de Meta sur ses prochaines lunettes de réalité augmentée. J'étais un peu pris. Il a fallu que je me clone pour aller voir ça, mais je le rate. On ira voir ça en rattrapage. Pascal Forget, bonjour!
Bonjour Alain McKenna, content d'être avec toi.
Pareillement.
On profite pour saluer nos partenaires, tant qu'à être là.
Ben, pourquoi pas? Ben,
oui. Le bâton, je le prends, je le salue nos partenaires. GoDaddy.ca, Microsoft et TELUS, des gros joueurs dans la technologie. Et si vous aimez le café, la Jura E8, entièrement automatique, une machine à café qui transforme le café en grains ou moulu en boisson caféinée ou non de votre choix, avec un affichage avec écran pour le choix des boissons, un ajustement précis de la quantité de café, d'eau, de lait et de café, le filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartre, un nettoyage facile avec des enzymes vraiment, vraiment chouette, un petite chute pour le café moulu du Décat de l'après-midi ou essayer d'autres types de café. Edica, leur salle de montre, leur distributeur au Québec, elle est magnifique. Jetez-y un coup d'œil.
C'est très vrai. Merci beaucoup. Écoute, c'est une semaine, encore une fois, chargée en actualité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, expliquer aux gens, mais inviter les gens à être avec nous parce que le bloc entrevue est vraiment extrêmement intéressant. On parle de l'Internet. Vous savez, l'Internet résidentiel et pourquoi ça coûte cher. On a des bonnes explications d'un jeune entrepreneur qui a lancé qui est devenu un fournisseur indépendant qui s'appelle Oxio. Pourquoi ça coûte cher? Pourquoi il est quand même optimiste? Comment on va améliorer ça au fil des prochaines années si on se croise un peu les doigts? Mm-hmm. Pour ma part, ensuite, je vais vous parler de Basilic parce que j'ai essayé un bidule qui est vaguement techno, les moins que peut-être qu'on a l'habitude d'essayer. C'est un petit jardin de comptoir qui s'appelle le Click and Grow.
Et moi, je vais parler d'un autre truc qu'on clique qui change de couleur pour indiquer le temps écoulé.
Un minuteur nouveau genre, ouais, ça va être intéressant.
Beaucoup, beaucoup ça sur le coin de mon bureau. On s'en parle tout à l'heure.
C'est cool.
Mais avant, moi, je vais te parler des téléphones OnePlus. On sait que c'est des téléphones qui sont super intéressants pour l'amateur de technologie. Des téléphones qui étaient des flagship killers, qui sont devenus des téléphones plus standards.
Effectivement.
Un des inconvénients, les gens disaient « Oui, mais toi, tu sais ça où? Comment tu... Il fallait les acheter, les essayer. Il fallait faire un acte de foi en les commandant. Ils vont être bientôt dans les Best Buy au Canada d'ici la fin du mois, si tout va bien. On va pouvoir essayer les téléphones OnePlus, probablement leur nouveau modèle. C'est le 9 Pro, le 10 Pro.
Ben là, on vient d'avoir le 9, on est rendu
le
9, au
10. Le 9 Pro, devrait sortir sous peu. C'est leur version T qui s'en vient. Alors, ça devrait apparaître rapidement dans les Best Buy. Les gens vont pouvoir essayer les téléphones OnePlus. Bien hâte de voir comment ça va se démarquer des autres.
Oui, il y a du mouvement dans le monde des téléphones Android, mais je vais quand même faire un lien étrange parce qu'il y a eu une nouvelle qui est passée cette semaine du côté d'Apple, en fait, qui a sur le Play Store son application pour migrer vers iOS. Là, qui s'appelle tout simplement Migrate to iOS, qui est l'application qu'on télécharge sur un téléphone Android pour envoyer l'information qui est contenue là vers un iPhone pour les gens qui achètent un iPhone. Ils ont une grosse nouvelle, puis c'est pas une si grosse nouvelle, mais ils ont quand même fait une conférence là-dessus. Il est maintenant possible de migrer les données de son carnet d'adresse, courriel, ce genre de choses-là, et aussi les données contenues dans l'application WhatsApp, qui est une application qui est un petit casse-tête pour les plateformes mobiles, parce qu'elle est très sécurisée, mais qui est quand même très en demande et très utilisée par pas mal tout le monde, parce que c'est quelque chose que moi-même j'utilise et que j'aurais jamais pensé avoir besoin d'utiliser, mais qui est très couramment utilisé par le public. Alors, petite nouvelle d'intérêt pour les gens qui songent à passer d'un Android à un iPhone. Il y a maintenant
Ma surprise, c'est justement comment ça se fait qu'on peut déplacer les données si elles sont si sécurisées que ça. Ouais. Il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans.
Elles sont chiffrées avec le mot de passe. Il suffit d'avoir le mot de passe. Donc, quand on déverrouille les deux téléphones, ça se fait plutôt bien. Mais effectivement, c'est un autre niveau de chiffrement avec WhatsApp. Passons aux actualités. Pascal, j'en profite pour rappeler que l'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolettre quotidienne InfoBref, toute l'actualité de la journée sans flafla directement dans votre boîte de courriel deux fois par jour, infobref.com. comme il y a eu une je veux pas dire une triste nouvelle parce que je sais même pas s'il y a eu aucune émotion associée à ça. Internet Explorer est officiellement plus du tout supporté par Microsoft. Ça fait un an qu'on en parle, ça fait 15 ans qu'on l'attend cette nouvelle-là, et là maintenant c'est vrai. C'est la fin, donc, pour Explorer.
Oui, les proches, vos proches, peut-être pas les auditeurs d'une tasse de tech, mais les gens qui doivent faire le support technique des membres de leur famille, de leurs amis, de leurs proches sont moins à l'aise avec la technologie, qui utilisent encore Internet Explorer, vont avoir une petite surprise. Microsoft, comme je sais, ça fait 27 ans qu'Internet Explorer existe, Microsoft cesse de le supporter officiellement. Et au fil des prochaines mises à jour, l'icône de Internet Explorer va disparaître. Ce qui est pas une mauvaise chose, ça force les gens à passer.
Ouais.
J'ai appris que depuis quelques années, depuis 2020, on ouvre automatiquement Edge quand on veut se connecter à 1400 sites qui sont incompatibles avec Internet Explorer, dont Facebook, Instagram,
les petits Google sites marginaux, ben oui, c'est ça.
Teams, à un moment donné, tu te dis, si t'as pas compris le message, qu'il faut que tu passes à Edge ou à Safari ou à Chrome ou à Firefox, un autre navigateur. Mais il y a encore tellement de gens qui sont habitués de cliquer sur le logo d'Explorer qui est familier et confortant. Donc, attendez-vous à ce que l'icône d'Explorer va disparaître bientôt. Les mm-hmm. données et les mots de passe d'Explorer vont être sauvegardés dans Edge automatiquement à ce moment-là.
Edge qui ne se fera pas accuser de position monopolistique dans son marché puisque c'est 4% des internautes seulement qui utilisent ce navigateur.
Non.
Évidemment, Chrome de Google est le plus gros avec 60% à cause de sa prédominance sur les plateformes mobiles, n'est-ce pas?
Oui.
Et Safari de Mac, d'Apple en fait, qui n'est pas sur Windows, qui n'est pas en version PC. Il l'a été pendant un bout de temps, mais je pense qu'ils ont arrêté de le faire. Ça, c'est 19% du marché de mémoire et c'est effectivement grâce à la position du iPhone dans le marché et des iPads définitivement. Il y a une actualité sportivistico-technologique qui a été...
Oui, qui
est
amateur de soccer.
Moi, ça me touche de différentes façons. D'ailleurs, je vous irai voir, j'ai une entrevue avec le président du CF Montréal, Gabriel Gervais, à ce sujet-là. Le passage de la diffusion en direct des matchs de la Ligue de MLS, la Major League of Soccer nord-américaine, vers l'application Apple TV chez Apple de façon exclusive à partir de la saison prochaine pour au moins 10 ans. C'est une affaire de gros sous. 250 millions de dollars américains sont remis à la MLS par Apple à chaque année sur les 10 prochaines années, plus des revenus partagés sur l'abonnement au service MLS dans l'application Apple TV. Je parle de l'application Apple TV parce qu'on ne parle pas seulement de la boîte Apple TV qu'on branche dans son téléviseur parce que l'application est disponible sur la plupart des plateformes de télé connectées, Roku, sur Fire TV, des choses comme ça, là, les récepteurs numériques modernes concurrents à l'Apple TV physique, matériel. Mais c'est quand même une exclusivité assez importante qui va mener aussi à un changement dans la façon dont on va diffuser les matchs parce que là, on promet évidemment des matchs commenté en anglais partout et en espagnol là où c'est pertinent et en français là où c'est pertinent. Mais en français c'est au Canada. Donc je présume que nos collègues de TVA Sports vont se faire peut-être approcher pour changer d'employeur. Je sais pas, ça va être intéressant de suivre ça. Je leur souhaite évidemment de connaître de continuer à connaître du succès dans leur carrière parce que ça serait plate que ça se traduise par des pertes d'emploi. Mais cela dit, diffusion donc va être disponible en français. Pas de ce qu'on appelle en anglais les blackouts, le géoblocage, là, à cause qu'on est dans le marché local. Donc, on va pouvoir vraiment regarder en numérique, peu importe où on se trouve, le match en direct. Ça va être intéressant. Évidemment, du rattrapage. Les matchs de saison, les matchs éliminatoires, les matchs de championnat en marge de la saison régulière aussi, sauf certains championnats au Mexique. Donc, on présume, parce que ça n'a pas encore été confirmé, qu'on aura aussi les matchs de la Coupe des Voyageurs, qui est l'espèce de petit championnat canadien entre les équipes de la MLS qui sont au Canada et les équipes de la CPL, là, la Canadian League de Soccer, là, la Premier League, je pense, en tout cas, la Ligue canadienne, où se trouvent des équipes comme Hamilton, Ottawa, puis ainsi de suite. Ça va être à suivre. C'est un mouvement, parce que là, on parle d'Apple et de la MLS, mais attendez-vous à ce qu'on en voit davantage de sports comme ça diffusés en direct, de façon exclusive, sur des plateformes. On le sait qu'en Europe, il y a le Tour de France, il y a la Premier League anglaise de soccer, il y a plein de créneaux comme ça qui sont en train de migrer vers le numérique. Il y a du soccer, il y a aussi du baseball chez Apple, il y a de la NFL chez Amazon. Bref, ça bouge beaucoup. Moi, ce que je retiens de cette actu-là, c'est vraiment, à un moment donné, là, on va payer tellement cher un petit service par abonnement, ça va revenir moins cher de s'abonner au câble. ce qu'il faudrait faire, c'est trouver un équilibre parce qu'on va s'abonner au câble, puis là, il n'y aura peut-être plus de contenu. Il va falloir la peine d'être.
Il y a un seul critique qui est en train de se faire. Au début, il y avait Netflix, on s'abonnait à Netflix. Maintenant, il y a tellement de services, puis chacun se bat pour des exclusivités. Mm-hmm. Les exclusivités, ça a du bon, mais c'est mal. Ça devrait être beaucoup plus fluide. Au moins, on peut acheter à la pièce des séries ou les trucs qu'on achetait à moindre coût. Ça pourrait être des beaux forfaits.
Bref, à suivre, ça commence de toute façon l'année prochaine. Entre-temps, Bill Gates, lui, nous a parlé de NFT récemment, là.
Ben oui, c'est ça, il s'est prononcé sur les NFT, les jetons non fongibles. Bill Gates, on s'entend, c'est quelqu'un qui doit en connaître un brin sur les mécanismes d'investissement et mm-hmm. sur comment faire des sous. Il a dit que les NFT, ces objets numériques, ces images de collections virtuelles, dont certains se vendent à prix d'or, c'est basé sur le blockchain pour s'assurer qu'elles soient pas qu'elles soient infalsifiables et qu'à toi seulement, Alain. Mm-hmm. Selon Bill, j'ai serré la main dans un événement.
Salut Bill. Hey Bill.
Montréal. Ouais, j'ai une petite émotion chaque fois que je parle de lui. Il dit que le prix monte parce qu'il y a plus de fous pour l'acheter. C'est la théorie du plus grand imbécile, la théorie du plus grand fou. Ça vaut cher parce que quelqu'un veut payer plus. La journée où on se rend compte que c'est juste un jeu de...
Ouais, mais à ce jeu-là, les cartes de les cartes sportives que les gens collectionnent, c'est un peu le même principe. Donc,
les peintures, l'art,
sans dire qu'ils sont
principe.
Fous, ça prend juste un intérêt. C'est vraiment là que ça se joue.
Exactement. Mm-hmm. Puis le temps que ça tient parce que quelqu'un veut payer plus cher, la journée où ça s'arrête, ça ne vaut rien. De façon, une peinture, à la limite, on peut la mettre sur son mur, c'est joli. Quand on pense que la personne qui a acheté le premier tweet pour 2,9 millions de dollars.
Voilà, parlant de fou, Québec, ça, c'était pas mal fou, effectivement.
C'était assez fou. Quelqu'un qui a acheté le NFT juste pour rire, à partir de 14 $, combien vont-ils valoir dans quelques années? Peut-être pas beaucoup, peut-être plus, qui sait. Bill Gates, c'est pas sûr. Puis toi, tu voulais parler du CRTC, parlant de quelque chose qui vaut cher, une amende.
Ben écoute, je vais mettre la table un peu pour le sujet de l'entrevue qui vient tout de suite après, parce que le CRTC a rendu un jugement au courant de la semaine dernière en imposant une amende, en fait, trois amendes séparées de 2,5 millions de dollars chacune à Bell pour avoir été un peu laxiste dans son partage de l'accès à ses poteaux téléphoniques, parce que vous savez comment ça marche quand on bâtit l'infrastructure physique. Ben, physique, c'est du réseau filaire. Réseau filaire au Québec passe par les poteaux de... Il y a deux solutions. Le réseau téléphonique de Bell ou le réseau électrique d'Hydro-Québec. Et Vidéotron, on le sait, son président, Pierre-Carl Péladeau, a été publiquement ouvert. Là, s'est exprimé vraiment. Il a dit, coudonc, on fait des demandes à Bell, puis ils sont vraiment branleux pour aller comme vraiment nous donner accès à certaines parties de son réseau. Et le CRTC s'est pris de cette question-là. Et là, a rendu un jugement, dit, ben, écoute, on constate qu'effectivement, Bell, à certains endroits, était un peu lent, et on s'explique pas pourquoi. Donc, on imagine... Et c'est à ça que ça va amener, que ça pourrait faciliter le déploiement de nouvelles infrastructures qui vont offrir un peu plus de concurrence dans le marché. Et souhaitons-le que ça va se traduire par une baisse des coûts pour les consommateurs. Parce qu'à la fin de la journée, le problème qu'on a au Québec, c'est ça, c'est que l'Internet coûte cher, alors que ça pourrait coûter moins cher. Donc, écoute, je dirais, ça améliore la compétition. Évidemment, c'est pas l'entrée d'un paquet de nouveaux joueurs non plus. On parle de deux grands fournisseurs, quand même régionaux et nationaux. Donc, petite bonne nouvelle, je dirais.
C'est quand même 7,5 millions de dollars d'amende. C'est pas énorme pour Bell, c'est une petite goutte d'eau. Mais
c'est un avertissement pour la suite, pour que justement les choses accélèrent. Donc il y a du positif de ce côté-là.
Plus élevé.
Effectivement. Alors voilà, ça conclut les actualités de la semaine. On prend une mini pause, le temps de jouer notre musique de balado, qui est toujours très cool. Et on revient avec notre invité, Marc-André Campagna d'Oxio, fournisseur Internet, qui va vous expliquer comment, pourquoi et quand les coûts d'Internet à la maison pourraient baisser.
De retour à Une Tasse de Tech avec Alain Mekena et Pascal Forget.
Et bienvenue à Une Tasse de Tech édition Grand Prix, j'aurais dire, parce que c'est quand même le Grand Prix de Formule 1 qui a lieu cette fin de semaine à Montréal. Donc, édition mi-juin. C'est un sujet qui dure depuis longtemps, dont on va parler, Pascal, parce que l'Internet à la maison, ça coûte cher ou ça coûte cher?
Mais c'est pas donné.
Hein? Donc, on va en parler. Je te laisse présenter le segment, puis après ça, on parle entrevue.
L'entrevue de la semaine d'Une Tasse de Tech est présentée par GoDaddy.ca, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Jusqu'au 20 juin 2022, profitez-en. Obtenez un domaine avec GoDaddy pour seulement $12,99 canadiens pour la première année avec un domaine .com qui est le domaine le plus populaire au monde ou encore un domaine .ca qui indique où vous êtes. Vous êtes au Canada, soyez-en fiers. Donc, vous assurez que tout le monde sait pourquoi vous êtes en ligne et où vous êtes en ligne et pourquoi vous êtes une personne fantastique sur le web. Avec GoDaddy, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour commencer. GoDaddy.ca.
Je suis pas mal certain qu'on peut trouver un point Québec aussi, si on cherche un peu.
.qc.ca.
Ben, il existe plus, mais le point QEBEC est quand même un truc qui a été adopté il y a quelques années. Donc, on va certainement pouvoir opter pour ça aussi.
Point Québec.
Vu qu'on est entre la Saint-Jean et la fête nationale de la fête du Canada, on peut faire les deux. Regarde la magie que je viens de faire. Si vous nous suivez en vidéo, vous voyez que tout d'un coup, on vient de, mon Dieu, prendre un grand plan sur le studio. J'ai une caméra web externe qui me permet de présenter notre invité. En vidéo, évidemment, si vous n'êtes pas en vidéo, je vous invite à venir nous voir de temps en temps. On a une chaîne YouTube, une tasse de tech sur YouTube.com et on a aussi notre page Facebook. Tu vois, on fait des plugs à répétition. Mm-hmm. Facebook.com, une tasse de tech. Pour les gens qui nous écoutent, pour les gens qui nous regardent, ben vous le voyez, nous sommes en studio. Donc, vous pouvez aussi nous écouter si vous voulez. On est en rattrapage et on est partout sur le réseau Cogeco. 98.5 FM.ca, / balado, c'est où se trouvent nos nombreuses et merveilleuses archives. Tout ça repose sur la magie d'Internet. Internet, c'est l'affaire auquel on se branche généralement par Wi-Fi à la maison et pour lequel il faut payer un petit montant quand même non négligeable quand on est abonné à des gros fournisseurs. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce créneau-là, notamment l'émergence d'une entreprise québécoise qui a beaucoup d'ambition, qui s'appelle Oxio. Et pour en parler, justement, on a Marc-André Campagnat, qui est le grand patron chez Oxio. Salut Marc-André.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien. Merci d'être avec nous en personne. Et je le souligne, t'es notre premier invité en studio ici à une tasse de tech depuis le temps qu'on fait ça, donc c'est une grande première et c'est vraiment le fun parce qu'on peut enfin se regarder quand on se parle et il y a pas de délai, tu sais. Si jamais je bafouille, c'est parce que je bafouille pour vrai, c'est pas ma caméra, c'est pas mon Wi-Fi, donc c'est quand même pas rien. Oxio, qui est un fournisseur, et tu me dis si je me trompe, c'est un fournisseur de services Internet indépendant. Vous êtes au Québec en ce moment, mais il y a de la volonté d'aller plus large. Est-ce que vous êtes déjà à l'extérieur du Québec?
On est déjà pratiquement partout au Canada, puis on est le plus grand fournisseur indépendant au Québec, puis avec l'ambition d'être le plus grand fournisseur indépendant au Canada prochainement.
Là, il y a eu beaucoup d'actualités dans le marché dans les derniers mois, même on peut dire quasiment dans les dernières années, en raison d'un paquet de décisions qui ont été prises au niveau gouvernemental. Comment ça se passe dans le marché? Comment ça va pour vous? Comment vont les affaires en ce moment?
Pour nous, ça va extrêmement bien, puis on est une exception à la règle. Si tu regardes, tous les autres fournisseurs ont beaucoup de problèmes à connecter des nouveaux clients. Puis la raison est simple, c'est que la tarif actuelle qui est en vigueur depuis 2016 ne fonctionne pas, ne permet pas d'avoir un pied d'égalité au niveau de la compétition. Les gros télécommunicateurs ont beaucoup d'avantages que nous, les petits opérateurs qui utilisent les infrastructures pour pouvoir déployer nos services. Non pas. Mm-hmm. Puis ça crée le champ de bataille n'est pas équitable, ce n'est pas à force égale. Puis c'est très problématique actuellement dans le marché.
Oui, ben effectivement, il y a des fournisseurs indépendants qui ont disparu d'ailleurs dans les derniers mois. Bon, évidemment, il y a une question de tarification. Quand vous fournissez à un consommateur de la bande passante, c'est de la bande passante que vous empruntez ou que vous achetez dans le fond d'un grand fournisseur qui a de l'infrastructure. Vous avez une formule spéciale chez Oxio pour justement essayer de minimiser les coûts. Comment vous fonctionnez exactement pour rendre ça abordable?
En fait, Oxio est parti avec la prémisse que l'innovation en télécommunication ne venait pas seulement des infrastructures physiques, mais des logiciels qui roulaient par-dessus ces infrastructures physiques-là. Le pont entre le client qui a son Wi-Fi à la maison puis l'infrastructure physique. Comment qu'on connecte le client de façon sans friction, de façon la plus simple possible. Puis on est capable de faire ça à travers le logiciel. Il y a des composantes physiques de l'aspect des télécommunications, mais le service à la clientèle, les activations, le provisioning, plusieurs composantes réseau peuvent être digitalisées. Puis nous, on est parti avec l'hypothèse que en 2019, seulement avec le logiciel, on pourrait arriver avec de devenir le meilleur fournisseur Internet puis éliminer toutes les frictions dans le marché. Ce qu'on a fait. Puis avec ce système d'opération-là qu'on a développé chez nous à l'interne, on est capable de réduire les coûts puis d'automatiser beaucoup de processus qui étaient auparavant physiques ou qui étaient auparavant non automatisés. Mm-hmm. Donc, on est capable d'utiliser ces économies-là puis de les redonner à nos clients. Puis nous, on a une tarification qui est 100% transparente. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site, voir exactement c'est quoi la distribution des coûts qu'on a pour pouvoir offrir nos services aux consommateurs. Puis, par la suite, les gens peuvent voir c'est combien de profits qu'on fait, etc. Puis nous, on a une formule qui est super simple. On vise un retour sur investissement sur 24 mois. Donc, pendant 24 mois, on est votre serviteur. On vous offre le meilleur service sur la planète Terre en espérant que vous restez avec nous.
J'ai peur que ce qui arrive au bout de 24 mois.
C'est ça. On est là, on fait
la pièce. Non, écoute, qu'est-ce qui arrive?
On commence à faire du profit qui est sain pour soutenir les opérations de l'entreprise.
OK.
Puis,
wow. Ça veut pas dire qu'il y a un changement de tarif. C'est juste que pour vous, c'est amorti sur 24 mois, l'acquisition de clients, de certaine façon.
Nous, on vise, notre mission, c'est être capable de vous servir, de vous prouver qu'on a une valeur ajoutée en faisant affaire avec nous. Puis, on se donne 24 mois pour vous prouver ça. Puis, par la suite, on continue d'offrir le même service. C'est juste qu'on commence à toucher profit à ce niveau-là.
Okay. Pascal?
Si je peux donner un exemple, sur le site d'Oxio, on voit que pour le forfait de 30 mégabits par seconde à 50 $ par mois, on voit qu'il y a 36 $ pour le réseau, 1 $ pour la logistique, 2 $ pour le matériel, 2 $ pour le marketing, 5 $ pour les salaires et 4 $ de profit. C'est quand même bien détaillé. C'est pas les grands fournisseurs qui nous offrent ce genre de détails-là.
Effectivement, c'est assez transparent. Et je pense même que vous avez récemment divulgué entre vous, je pense que c'est resté à l'interne, les salaires des gens qui travaillent chez vous.
Exactement.
Ça, c'est un niveau de transparence assez extrême quand même. Là.
En fait, on veut devenir la compagnie la plus transparente au monde. Puis
on vous verra plus. On va voir à travers.
On veut devenir la compagnie la plus transparente au monde. Puis on a deux valeurs qui sont fondamentales chez nous, chez Oxio. Il y a la transparence radicale, mais aussi, on pense qu'il y a certaines décisions qui ne devraient pas être prises dans la vie privée d'un individu par la compagnie, ne pas impacter la vie privée de nos individus qui travaillent chez Oxio. Mm-hmm. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de ne pas divulguer à l'externe les salaires de l'entreprise, parce que de savoir...
Ouais, ça aurait été un peu plus extrême encore.
Ça aurait été un petit peu plus extrême. Mm-hmm. Je vous cacherai pas qu'initialement c'était mon idée, mais après avoir consulté l'équipe à l'interne, il y a certains gens qui m'ont parlé de qui étaient moins à l'aise de divulguer leur salaire à leur famille, à leurs proches, etc. Mm-hmm. Que ça pouvait avoir une différente. Les gens pouvaient avoir une différente
ça
perception.
Ça peut être mal reçu. Ouais. Si on suit comment ça se passe dans les médias sociaux en général, souvent c'est mal reçu.
Ouais, exactement. Puis il y a un gros tabou au niveau de l'argent, combien qu'on gagne, etc. Nous, on pensait que ça allait faire avancer les choses, mais en même temps. La conclusion qu'on est arrivée, c'est que la transparence radicale devrait toujours respecter la vie privée des individus chez Oxio.
Donc,
c'est là qu'on trace la ligne. Ouais. Puis nous, on va être la compagnie la plus transparente au monde dans ces barèmes-là.
Mm-hmm. Là, en ce moment, vous fournissez du service Internet à travers les réseaux de, je présume, Bell et Vidéotron au Québec.
Seulement Vidéotron au Québec.
Seulement Vidéotron, donc pas Bell. Je sais qu'il y a une discussion parce qu'au niveau du CRTC, il y a une harmonisation des prix de gros, entre nous, disons-le comme ça, et il y a un volet qui n'a pas encore été rempli, qui est la portion fibre optique de l'affaire. Ça s'en vient de façon imminente. Est-ce que ça va vous affecter quand ça va arriver?
En fait, c'est un excellent sujet, puis excuse-moi, je ne répondrai pas directement à ta question, mais je pense que c'est important de donner le contexte, puis aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement dans le marché au niveau de la tarification, etc. Mm-hmm. Depuis que Ian Scott, le chairman du CRTC, est en place, qui est un ancien des gros joueurs... Puis
un
qui
ex-VP TELUS.
Exactement. Oui. Ils ont favorisé les gros joueurs au détriment des petits joueurs dans toutes les décisions qu'ils ont prises. Mm-hmm. Ça, on a eu de l'espoir en 2019 quand la tarif qui a été renversée était sortie. Ils nous ont brisé nos rêves en 2021, ouais. L'année dernière. Puis là... On semble avoir un vent de fraîcheur au niveau des télécommunications au Canada. Il y a le ministre Champagne qui, il y a quelques semaines, a amené des nouvelles instructions au CRTC de qu'est-ce qu'il devait favoriser.
OK.
Puis avant ces instructions-là, ce que le CRTC voulait favoriser, c'est les facilities-based competitors. Fait, okay. Il voulait transiger vers, en ce moment, la tarif pour avoir accès aux différents réseaux des grands télécommunicateurs est basée sur un modèle agrégé. Mm-hmm. C'est-à-dire que un point d'interconnexion pour nous avec le télécommunicateur au cœur de son réseau, on est capable ensuite de ça de déployer nos services Internet à travers l'infrastructure complète. Là, ce qu'il voulait transiger vers un modèle désagrégé où on devrait avoir plusieurs points d'interconnexion puis créer de l'infrastructure par-dessus de l'infrastructure qui existe déjà.
Ouais.
Donc, on ajoute des coûts supplémentaires parce que la prémisse initiale du CRTC... n'amène absolument rien en termes de valeur ajoutée aux clients.
Ouais, ils demandaient aux indépendants d'avoir au moins une partie de leur infrastructure à eux.
Exact. Ils voulaient le but de Ian Scott et du CRTC, c'était de transiger vers une tarif agrégée versus désagrégée qui favoriserait ceux qui déploient de l'infrastructure.
Exact. Ouais, voilà.
En gros. Mm-hmm. La nouvelle directive du ministre Champagne dit il faut qu'il y ait plus d'innovation, il faut qu'il y ait plus de compétition. Le modèle tarif agrégé a été prouvé pour réduire les coûts des télécommunications, même si on n'est pas encore rendu où est-ce qu'on devrait être, a été prouvé pour réduire les coûts. Donc, cette tarif-là est là pour rester tant aussi longtemps que les coûts ne seront pas réduits. Okay. Donc, ils ont coupé le nouveau plan qui était de passer vers agrégé versus désagrégé.
Okay.
Ce qui, ça, est une excellente nouvelle.
Ça, j'avais pas vu passer, effectivement, mais c'est vrai.
Ça, c'est une excellente nouvelle. Mm-hmm. Ça reste que c'est des propositions qui sont pas encore renforcées. Ils disent éventuellement ça va rester dans le modèle agrégé, mais ça reste qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur la tarif agrégée en tant que telle en ce moment. Mm-hmm. Il y a aussi l'autre instruction qui était super intéressante du ministre Champagne, c'était au niveau du modèle d'opérateur virtuel pour les services mobiles.
Oui.
Il y a eu une décision, encore une fois, où on s'est fait détruire tous nos rêves l'année dernière par rapport aux services mobiles, qui disait que tu devais détenir de l'infrastructure régionale pour pouvoir éventuellement prendre une entente avec les opérateurs nationaux pour déployer des services mobiles.
Est-ce qu'une marque comme Koudo, est-ce qu'une marque comme Virgin Mobile, c'est considéré des opérateurs virtuels ou c'est juste des sous-marques des grandes?
C'est toutes des sous-marques. Il y a eu un seul vrai opérateur virtuel au Canada, même Virgin, quand ils ont lancé initialement. Je pense que 40% était détenu par Bell dès le départ. Mm-hmm. Puis ensuite de ça, Bell a racheté 100% de Virgin.
Ouais, ouais, ouais.
Le seul vrai opérateur virtuel qu'il y a eu dans l'histoire du Canada, c'est Freedom Mobile, mm-hmm. qui est devenu... c'est Wind Mobile, qui est devenu Freedom Mobile, qui s'est fait acquérir par Shaw.
Puis là, qui est en plein débat de rachat avec...
Exactement.
Rogers, exactement.
Les anciens mm-hmm. fondateurs de Global... les fondateurs de Global Live, Bryce et Mark, sont en train d'essayer de... Anthony LaCovera, sont en train de regarder pour peut-être racheter la branche mobile de Shaw pour devenir un nouveau opérateur.
Ah oui, ça, c'est une autre saga, définitivement.
C'est ça. Il y a plusieurs sagas qui se passent en même temps, mais quand tu regardes dans le monde ce qui se passe, tout ce qui est télécommunication tend vers une certaine convergence éventuellement, donc il faut vraiment regarder chacun des points, c'est quoi les instructions qui arrivent, puis à quel point ça peut impacter, parce que vous comprendrez qu'un fournisseur indépendant comme nous, on veut absolument lancer du mobile, puis on croit qu'on a une valeur ajoutée à vendre du mobile éventuellement, mais si la loi ne nous le permet pas, on peut pas innover, puis on peut pas réduire les coûts dans ce domaine-là, donc il faut vraiment suivre les différents points, puis l'instruction numéro 2, c'est que le ministre Champagne semble déterminé de vouloir revisiter ou du moins de jeter un coup d'œil sur la décision qui a été prise au niveau du service mobile. Elle serait peut-être réévaluée si elle n'amène pas la compétition souhaitée par cette nouvelle tarife.
Donc, c'est à suivre de très près. Au niveau consommateur, là... On voit toujours les études. Bon, l'Internet coûte cher, puis évidemment, les fournisseurs indépendants cherchent à réduire ce tarif-là. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que tu vois le marché devenir de plus en plus accessible pour le consommateur?
Je suis un éternel optimiste, donc je vais répondre. La réponse courte, c'est oui. La réponse longue, c'est que je suis un éternel pessimiste contre les décisions du CRTC.
Ben, j'allais dire, c'est quoi la solution? Est-ce qu'il y a un nouveau, parce que là, il va y avoir un nouveau président qui va être nommé en septembre, est-ce que ça peut amener du changement? Est-ce que tu vois des solutions qui peuvent être simples et applicables rapidement?
Les solutions se trouvent simples et applicables rapidement, ça c'est...
Ben, elles existent, mais est-ce qu'on va les voir au Canada?
Ça existe dans l'univers, dans le domaine des télécoms, je sais pas si ça existe. les changements simples et efficaces et rapides, je ne crois pas que ça existe chez les gros joueurs. Il y a plusieurs solutions dans le marché. Puis on a juste à regarder au sud, les États-Unis,
ils ont un modèle, oui.
Regarder ce qui se passe actuellement. Mm-hmm. Puis tu vois... plusieurs choses qui sont complètement différentes du marché. En ce moment, juste aujourd'hui, il y a Google Fiber qui a annoncé qu'il adoptait le modèle Open Access, qui est en gros, tu déploies de l'infrastructure physique. Exactement le modèle TPIA, sauf au lieu d'être une entreprise qui offre aussi des services aux consommateurs, c'est une entreprise qui est consacrée à développer l'infrastructure. Puis ensuite de ça, il y a des fournisseurs qui louent cette infrastructure-là pour pouvoir vendre des services aux clients.
Ça, c'est un peu ce que les grands fournisseurs canadiens ont toujours refusé de faire, en fait, de devenir juste des opérateurs. En anglais, ils disent des pipe operators. Ils veulent pas juste être les plombiers de la machine. Ils veulent aussi offrir la valeur ajoutée, le service et tout le reste. Là.
Exactement. Ben, en fait, historiquement, le domaine des télécommunications a toujours été monopolistique au Canada. Le gouvernement a subventionné les déploiements en région, etc. Puis l'argument des grands joueurs, c'est mais si vous voulez qu'il y ait de l'innovation puis qu'il y ait des réseaux qui sont déployés en région, il faut que le statu quo se maintienne. Mais c'est complètement faux quand tu penses à un montant faramineux des infrastructures qui ont été déployées en région, puis même historiquement, les grands fournisseurs de téléphonie dans l'époque voulaient pas aller ailleurs des grands centres. Et c'est le gouvernement qui a fait « on va vous donner ces monopoles-là, on va vous subventionner le déploiement des infrastructures, puis on va vous donner l'exclusivité de ces secteurs-là, puis vous allez pouvoir les opérer. Mm-hmm. » C'est exactement ce qui se passe avec les régions depuis 2007, si c'est pas avant, avec les programmes Village branché, Connecté pour innover. Oui. Il faut toujours que les grands télécommunicateurs attendent après des subventions savoureuses qui financent la majeure partie de leur réseau pour déployer leur réseau.
Là, il s'en vient des fournisseurs étrangers avec des offres par satellite. Est-ce que ça, c'est une menace? Est-ce que c'est une occasion? Comment tu vois cet éclatement du marché-là?
Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça super. C'est bon pour le consommateur, c'est bon pour les Québécois, mais encore une fois, c'est bon pour les Canadiens. Encore une fois, la racine du problème demeure, mais je pense que il va avoir une certaine peur de la part des grands joueurs avec ce qui s'en vient. Puis j'explique, c'est il y a des services satellitaires, si tu penses à Starlink, avec SpaceX, etc.
Ouais.
Ils vont, en ce moment, sont disponibles au Canada. Ils déploient des services, mais c'est une technologie qui est super bonne pour les régions éloignées, pour les gens où que déployer de la fibre optique quand t'as un voisin aux 2 kilomètres n'est pas rentable. Mm-hmm. Donc, c'est une alternative qui est super intéressante pour ça. Là où ce que moi, je m'intéresse le plus, c'est vraiment comment qu'on déploie de l'infrastructure de télécommunications de haute qualité en réduisant le plus les coûts possibles pour être capable de redonner ces coûts-là, de faire sauver des économies, ou aussi de réduire les déploiements de façon le moins dispendieux possible pour être capable de connecter la planète au complet à l'Internet haute vitesse.
Mm-hmm.
Puis quand tu regardes les modèles open access qui se fait aux États-Unis, ben tu te rends compte que de répartir nos forces puis d'impliquer tous les stakeholders que tu dois avoir pour déployer de l'infrastructure de télécommunication vers un seul réseau qui est capable de supporter le load que tous les consommateurs vont avoir en utilisant ce réseau-là. C'est là que tu te rends compte qu'il y a des nouveaux modèles qui sont en train de se déployer, qui sont super intéressants, qui vont réduire les coûts puis qui vont donner accès à Internet à la planète au complet. Puis tu regardes aux États-Unis, tu as un réseau décentralisé qui est le plus gros réseau maintenant au monde, qui est le Helium Network, qui est un réseau qui a été déployé par des hotspots que tu peux acheter.
Mm-hmm.
Tu installes ça chez toi, puis ça l'émet du signal de télécommunication. C'est du LoRaWAN, c'est pour les low...
Ouais, ouais, c'est
du LoRaWAN pour le IoT,
mm-hmm.
qui demande pas beaucoup de vitesse puis pas beaucoup d'énergie. Puis, eux, en seulement quelques années, sont rendus partout dans le monde. Moi, j'ai mon hotspot à Montréal ici. Je peux être rémunéré avec un coin, un token que Helium utilise pour pouvoir partager et participer au réseau.
Wow.
Puis, avec FreedomFi, ils ont fait un partenariat avec FreedomFi. Puis, au lieu de déployer ces hotspots-là pour le IoT, les FreedomFi s'est concentré sur le 5G.
OK.
Puis, le 5G au Canada, aux États-Unis, en ce moment, est en train d'être déployé d'une façon décentralisée par FreedomFi. C'est-à-dire que si tu habitais aux États-Unis, peu importe où, tu pourrais t'acheter un hotspot FreedomFi, l'installer chez toi, puis participer, puis être rémunéré pour déployer cette infrastructure-là.
Wow.
Puis, par contre, ça, ils dépendent du CBRS, qui est la bande de fréquence, je pense, de la Navy aux États-Unis.
C'est
une vieille bande de fréquence qui était non utilisée. Ils ont décidé, ou qui n'était pas utilisée à son plein potentiel. Les États-Unis ont décidé d'ouvrir ça pour pouvoir permettre à des compagnies de justement déployer des services dans les bandes de fréquence du CBRS. Donc, mm-hmm. ils ont ouvert cette bande de fréquence-là. Puis maintenant, tu payes des coûts fractionnel en fonction de ton utilisation en real time sur ton hotspot, sur la fréquence que tu émets dans ce spectrum-là. Puis
wow.
ce que ça fait, c'est que ça laisse place à de l'innovation comme FreedomFi qui vont être capables de déployer un réseau 5G national, répartir les coûts. Les grands joueurs qui vont vouloir offrir des services 5G national vont pouvoir payer un frais raisonnable pour utiliser ça, puis les coûts vont se répartir de tout le monde, parce que ça va être un réseau pour tout le monde. Donc, mm-hmm. ces économies-là vont retourner dans les poches du consommateur. Mais quand tu penses au Canada, on n'a pas de bandes de fréquences qui sont ouvertes comme aux États-Unis.
Effectivement.
Donc, FreedomFi ne peut pas expandre ses services au Canada. Puis moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tabarouette, faut qu'on lance ça avec Oxio. Je me disais, c'est super, on pourrait arriver à quelque chose de super intéressant
mm-hmm.
pour dans le 5G, pour être précurseur dans le marché, puis etc. Mais on est bloqué en amont parce qu'on n'a pas les ressources disponibles au Canada. Tout est fermé pour pouvoir déployer ce nouveau type de service-là.
Ça serait intéressant, par exemple. Moins d'infrastructures, plus de fournisseurs. Ça me semble une logique assez intéressante.
Ben, effectivement. Puis quand tu regardes les réseaux, les infrastructures en ce moment, on a passé à travers la pandémie. Au Canada, les infrastructures sont robustes. On n'a pas besoin de déployer un réseau de fibre optique par-dessus un autre réseau de fibre optique. C'est les équipements au bout de ces réseaux-là qui déterminent le nombre, la capacité de giga qu'on peut déployer de toute façon, puis les brins de ces fibres optiques-là. Donc, en déployant un réseau de fibre optique, on pourrait se répartir les brins entre fournisseurs. Puis, ensuite de ça, on pourrait répartir les coûts, puis justement arriver avec des services qui sont encore plus innovants, qui se concentrent pas seulement à déployer de l'infrastructure physique. Mais on est coupé au Canada de toutes ces innovations-là parce que c'est encore un monopole, les infrastructures ne sont pas ouvertes. Puis le CRTC, jusqu'à depuis la nouvelle instruction du ministre Champagne, voulait favoriser les gens qui déploient de l'infrastructure quand on n'a pas besoin de déployer de nouvelles infrastructures.
Est-ce que ça va changer? Est-ce que tu sens qu'il y a un petit vent de changement qui s'amorce durablement, disons?
Je pense que oui.
OK. Donc, il y a de l'espoir.
Oui, je suis un éternel optimiste, comme j'ai dit.
Ah oui, c'est vrai.
C'est sûr et certain que sur un horizon de temps assez grand, il va y avoir des changements. Le Canada ne peut pas se fermer sur le reste du monde. Quoique les télécommunicateurs puis le CRTC ont été bons pour utiliser l'allégorie de la caverne puis nous faire voir seulement des ombres de ce qui se passe puis essayer de nous mêler sur ce qui se passe sans qu'on voit réellement ce qui se passe en arrière. Mais ils peuvent pas faire ça de façon éternelle. Peut-être qu'on va être... On est déjà 5 ans, si c'est pas plus, en retard, contrairement aux autres pays en Europe, contrairement aux coûts qu'ils payent aux services qui sont offerts. Mais ils peuvent pas faire ça éternellement. On peut pas se fermer au monde éternellement.
Du coup, une petite révolution ou une petite amélioration.
Exact.
Puis, si on croit dans la décentralisation, on va chez Oxio. Oxio.co, hein, je parle de votre site web.
Oxio.ca.
.ca.
Oui.
Ah, excuse-moi, j'étais ailleurs. Mais écoute, intéressant, on va suivre ça de très près. Puis, effectivement, fournisseurs dépendants, vous avez un rôle important. Faut comme se battre contre la machine. On a l'impression que c'est un peu ça qui arrive. Donc,
Exactement.
Faut pas lâcher. Faut pas abandonner le combat, définitivement. Marc-André Campagna, donc, président et fondateur.
Oui.
D'Oxio. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très intéressant.
Merci à vous.
Et à la prochaine.
À la prochaine.
Nous, on prend une mini courte pause. Allez, je peux même regarder par là parce que ma caméra est sur le côté. Salut! Et on va parler de Basilic. Je vous le dis, il y a un angle techno. Restez avec nous. On en parle dans un instant.
De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget.
Rebonjour, re-bienvenue à Une tasse de tech, troisième segment de l'émission de la semaine du 16 juin. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, j'ai un plan de vue différent.
Un potager.
Je suis caché derrière mon potager de poche. Juste avant de parler des gadgets, parce que ça, c'est mon gadget de la semaine, rappelez aux gens, si vous voulez nous écouter, en fait, comme c'est l'été, on a tendance à prendre les choses plus relaxes. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous abonner à la balado Une tasse de tech sur les plateformes balado de votre choix, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast. En fait, l'équivalent français, c'est Apple Balado, Google Balado, Spotify, Pocket Deezer, Cast. Pocket Cast, qui agrège effectivement. Il y a quelques autres applications du genre. Vous vous abonnez et vous recevez automatiquement le nouvel épisode d'Une tasse de tech dans votre lecteur balado.
Et on parle d'abonnement, mais c'est gratuit. Donc, c'est simplement pour recevoir automatiquement les nouveaux épisodes. Si vous voulez, vous pouvez programmer leur téléchargement. Vous aurez toujours à votre disposition le dernier épisode d'Une tasse de tech.
Exactement. Et surtout, et en plus, j'aimerais dire, il y a aussi nos archives qui sont d'ailleurs tout à fait pertinentes et intéressantes. On a toujours des bons invités, surtout. J'ai rencontré cette semaine, d'ailleurs, un invité qu'on a eu il y a 2 ans. Dont on parlait de la prochaine génération de connexion, de protocole de communication sans fil qui devrait remplacer Bluetooth. Donc, quelque chose qui s'en vient assez prometteur et qui est conçu à Montréal. Donc, il y a quand même des choses le fun dans nos archives. Moi, je vous parle de cet appareil qui s'appelle le Click and Grow. Mais avant, Pascal, tu nous parles, toi, d'un petit gadget quand même, mais qui est quand même assez intéressant. Le Time Cube, qu'est-ce que c'est que cela?
Ben c'est rouge en ce moment, ça veut dire que mon temps est écoulé.
Okay.
C'est un petit cube à peu près de quoi 7 cm de diagonale, je pourrais vérifier les dimensions exactes. Time Cube avec un Q, pour ceux qui se le demandent, c'est pas Time Cube avec un C. On le trouve sur Internet. C'est un bel objet qui permet d'être notifié quand le temps est écoulé. C'est un minuteur.
C'est un minuteur, nouveau genre.
Visuel qui ne sonne pas, il ne fait pas de bruit. Et ça, c'est quelque chose de fantastique parce que je donne des cours sur la gestion du temps temps, entre autres, en parallèle. Et une chose que les gens ont de la difficulté à faire avec les technologies, c'est se concentrer. Et le gain de productivité qu'on peut faire en disant « je rédige mon rapport pendant 45 minutes, je rédige ma chronique, dans mon cas, pendant 1 heure, 55 minutes », c'est assez fantastique de se dire « après ça, je peux prendre une pause, mais je ne fais que ça pendant un temps désiré ». Avec le Time Cube, on a tout simplement qu'à l'allumer. On a à la base du Time Cube certains codes. On a 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 25 minutes, 45 minutes, 55 minutes. On appuie sur le Time Cube pour démarrer le minuteur et ça devient vert. Et ça nous dit qu'on travaille. Quand on a passé plus de la moitié du temps, ça devient jaune pour nous dire « OK, tu as dépassé la moitié ». Et quand on approche de la fin, ça devient rouge. Et quand c'est terminé, ça clignote en rouge. Ah. Ce qui est fantastique, c'est que si on met ce bidule-là juste en dehors de notre champ de vision, on le voit de façon intuitive, on le sent que le temps s'écoule et ça nous force à « Oh, OK, il reste, c'est rouge, c'est écoulé, on va finir de travailler. Ce matin, je m'en suis servi pour réduire ma chronique. J'ai fait ça en un temps record.
Ah oui.
Souvent, on prend le temps qu'on se donne. Donc, on va procrastiner, on va faire d'autres trucs, on va consulter Facebook, juste un petit message sur Instagram, un petit quelque chose comme ça. Avec le Time Cube, c'est assez fantastique. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas d'application. Il n'y a pas de connexion à son ordinateur.
Pas de complications,
Il n'y a pas de complications, ce qui est souvent un obstacle quand j'utilise des trucs pour la gestion du temps. Mm-hmm. S'il faut ouvrir son téléphone, oh, tu vois qu'il y a un message, oh, tu réponds au message, tu viens de perdre 5 minutes drette, là. Donc, avec le Time Cube dans le coin, ça se recharge par USB-C. Il y a une vingtaine d'heures, je crois, d'autonomie, si je ne m'abuse. Et puis, on peut l'utiliser comme ça, sans connexion, sans application directement. Là où ça blesse, c'est 80$ environ canadien.
c'est pas donné quand même. Hein?
C'est pas donné. Donc, ceux qui sont intéressés, alléchés par l'idée d'utiliser des minuteries, si vous voulez voir si c'est efficace pour vous, mm-hmm. au Dollarama, ils ont des minuteries de cuisine qui coûtent 2$.
Oh, ils vont faire TikTok.
Il y en a qui font TikTok. Certains aiment ce bruit-là. Il y en a qui sont silencieuses. L'inconvénient, c'est que la plupart de ces minuteries-là vont sonner à la fin.
Ouais.
Et ça va te sortir de ta bulle de productivité. Donc, des fois, tu vas continuer naturellement à terminer ton truc, tu réalises. Donc, j'aime beaucoup que ce ne soit pas une sonnerie auditive. Ils ont une application aussi Time Cube avec un Q. Et évidemment, il y a toutes sortes d'options de tranquillité sur son ordinateur, y compris la fonction, l'assistant de concentration dans les ordinateurs Windows. Dans votre horloge, vous avez un petit bouton, vous pouvez créer une période pour se concentrer. Mm-hmm. À la fin, vous avez une petite sonnerie, vous pouvez démarrer de la musique en même temps. Mais le Time Cube, ça avait envie de vous concentrer, c'est très joli. Il faudrait que je le fasse on est dans un café, juste pour voir la réaction des gens. Et comme c'est visuel, dernier avantage, ça peut servir à dire aux enfants, quand c'est rouge, tant que c'est pas rouge, dérange-moi pas.
Ouais, ben oui, exactement.
Quand c'est vert, quand c'est jaune, tu ne me déranges pas, je travaille. Papa, maman, fait quelque chose.
Voilà.
Ça peut être un bel objet pour ça. Pensez-y.
Pratique.
C'est sur mon site, j'ai fait un billet là-dessus, c'est mon dernier.
TimeCube, TimeCube.
Ouais, voilà. Cube. Et toi, tu veux nous parler j'ai le goût de prendre du basilic, je crois.
Ce sont 3 petites capsules de basilic que j'ai semées dans mon potager de comptoir Click and Grow. Et pour ceux qui le voient, je vais leur dire, ça fait au moins 10 cm de haut. Ça fait vraiment pas tout à fait 3 semaines qu'on a mis ça là. Ça fait un petit bout de temps que je m'intéresse à ces, parce qu'il y a beaucoup de formats et de genres d'accessoires de comptoir pour la maison qui permettent de cultiver ses propres fines herbes. À la limite, des tomates cerises ou des laitues, des choses comme ça.
Comment on appelle ça? Des semis pour préparer avant de les mettre à l'extérieur quand on est dans des régions plus fraîches. Nos parents viennent du Nord.
Il y a une start-up de Québec dont le nom m'échappe qui font une espèce de gros, c'est pratiquement gros comme un frigo. Ça se met dans le coin de la pièce. Ça permet de cultiver une quarantaine de semis.
Très joli.
Exactement. Et parce qu'évidemment, premier contact, on veut pas y aller avec la grosse affaire. Donc, j'ai essayé ce petit appareil, le Click and Grow, donc, qui contient 3 capsules, 3 espaces dans lesquels on met un peu de terre. Évidemment, là, quand on l'achète, ça vient avec 3 capsules pré-réglées, dans le fond, de basilic. Et ça permet de voir à quel point c'est efficace. Donc, c'est un appareil qui est à peu près gros comme un grille-pain, dans lequel on fait essentiellement juste mettre de l'eau. Il y a les 3 capsules, donc on installe sur le dessus. Il y a des étiquettes pour nous. On a donné des noms sympathiques. Il y a Gilberta, il y a Augustine et il y a l'autre dont j'oublie le nom. qui sont nos trois plants de basilic que les enfants ont pris évidemment beaucoup de plaisir à nommer. Et d'ailleurs, c'est leur job de s'occuper de ces plants-là. Donc, vous voyez que c'est pas un très gros travail parce que tout se fait tout seul. Et c'est ça un peu l'intérêt de la chose, c'est qu'on installe ça sur le comptoir, on le branche idéalement à la bonne heure le matin. Parce que l'éclairage qui est sur une tige à dalle qui peut être ajusté en hauteur parce que ça pousse vite du basilic, oui. Je vous le dis tout de suite. Oui. Donc on commence très bas et on pourrait ajouter deux petites extensions pour donc l'éclairage qui permettent de surélever la chose d'un bon 30-40 cm. L'éclairage donc est réglé pour fonctionner, il s'allume, il s'éteint pour créer le cycle jour et nuit dont évidemment une plante a besoin pour croître. On ajoute de l'eau au fond. Et la partie technologique de l'affaire, parce que jusqu'à date, c'est pas mal assez banal comme gadget, c'est que il y a automatiquement un calcul du niveau d'humidité de la terre, donc là où on s'entend, les plantes prennent leur source, n'est-ce pas? Moi, je suis un fin géologue, là, je pourrais vous dire. J'ai le pouce vert, ça n'a aucun bon sens. Bref, les plantes poussent dans la terre et la terre a besoin d'eau pour que tout ça fonctionne. Et il y a un détecteur automatique qui va envoyer le niveau optimal d'eau aux racines, à la plante, pour qu'elle pousse à son maximum sans se casser la tête. Ce qui est intéressant, c'est que comme ce sont c'est de la culture intérieure, des fines herbes, c'est fragile. Hein, quiconque, sauf peut-être de la ciboulette qui pousse n'importe où, et ça, j'ai jamais compris pourquoi. Mais faire pousser du basilic, du romarin, des fines herbes en général, dans la cour, c'est pas évident. De la laitue, surtout, ben, je sais pas, ça dépend où vous restez. Chez nous, il y a des lapins, des ratons, il y a toutes sortes d'animaux qui vont venir voler vos carottes, ces choses-là. Pour ça, c'est intéressant. Évidemment, là, je parle de laitue. Dans ce cas-ci, oubliez ça, c'est impossible. C'est seulement des fines herbes qui vont être cultivées ici, parce que ce sont des petites capsules qui font pas 5 cm de profondeur.
C'est ça. Des fleurs aussi. On peut faire des fleurs si on veut dans sa cuisine avec
c'est plus joli, effectivement. Puis au bout d'un bout de temps...
C'est moins comestible.
Effectivement. Et dans le cas, évidemment, d'une plante comme du basilic, on prend une feuille de temps en temps, on ajoute ça à la cuisson et on a toujours un assaisonnement impeccable. Et c'est ça qui est le fun. Et puis si on est tanné, on nettoie et on met une nouvelle, on part une nouvelle. Ça peut être d'autres choses que du basilic, évidemment. Je sais pas. Et là, mes connaissances des plantes commencent à être un peu limitées, mais je me dis, dehors, il y a des moyens d'aller chercher peut-être des petits piments, des choses comme ça qui peuvent pousser dans ce contexte-là.
Écoute, ce qui est possible de faire, c'est d'utiliser les petits contenants de carton à semis qu'on peut trouver au magasin du dollar, j'en ai trouvé. Évidemment, tu n'auras pas le substrat, tu n'auras pas la terre optimale que Click and Grow offre. Les capsules qu'ils offrent sont quand même assez coûteuses, mais ils donnent des résultats assez garantis. Mais tu pourrais prendre des petits pots de carton, les mettre à l'intérieur, tout simplement mettre de la terre dedans le contenant, et les racines vont plonger dedans. C'est possible. Alain, tu parlais d'une compagnie québécoise, il y a entre autres NovaGrow.
Voilà.
NovaGrow, qui serait une alternative québécoise très, très, très similaire au Click and Grow. Un petit peu plus coûteuse, mais très design. Et un modèle qui est double. Donc, deux étages pour avoir deux niveaux de plantes.
Oui, parce qu'on peut, si on veut aller loin dans ça, et là, moi, ça me convainc un peu, puis je vais continuer d'investiguer, parce qu'on peut avoir, vous savez, on peut avoir, tu sais, comme l'équivalent de lave-vaisselle encastré dans un comptoir.
Oui.
Il y a évidemment les refroidisseurs à vin qui sont très populaires chez une certaine clientèle. Et là, il existe ces espèces de mini-frigos à fines herbes, et là, on peut effectivement aller plus loin dans la culture de choses comme des petites tomates ou même des laitues, là, et que ça s'encastre dans un comptoir, et c'est plus élégant, à mon avis, qu'un refroidisseur à vin, mais c'est une question de goût. Et je me demandais si effectivement ça fonctionnait, parce que ce truc-là sur papier, c'est bien, mais est-ce que vraiment, et là je vois ça, c'est à la maison, sur mon comptoir de cuisine, c'est vraiment un vrai de vrai test et ça pousse très bien. Et là, tout d'un coup, j'ai goût d'aller me faire une pizza avec de la mozzarella et un petit peu de basilic, parce que j'ai ça devant moi et c'est vraiment intéressant. Et pour juste conclure sur le sujet, 129$ cet appareil, le Click and Grow. Ce sont les gens de Best Buy qui me l'ont envoyé parce que c'était un cadeau de la fête des mères, je crois, que j'ai voulu tester.
Wow, donc il a fallu prendre du temps. C'est un beau cadeau.
Et là, avec la plante toute prépoussée, c'est un cadeau de la fête des pères maintenant.
Parce qu'on a plus de travail à faire. Parce que j'ai offert ça à mes parents, justement.
Ah,
ils vivent dans le Nord. Et c'est très drôle parce que comme la durée, c'est automatisé, c'est très simple, on n'a pas besoin d'arroser. Très festif comme beau cadeau.
Exact.
Pour faire des semis ou avoir des fines herbes.
Pour les gens qui aiment assaisonner avec des herbes fraîches et qui sont toujours poignées avec l'espèce de petit contenant en plastique dans le frigo qui finit par sécher. Ouais. Sérieusement,
c'est bien
je pense
cher
que
à la longue.
C'est du gaspillage aussi, puis c'est effectivement des sous. Donc ça vaut la peine pour les gens qui justement rêvent d'utiliser un petit peu plus de rehausser leur cuisine, disons ça comme ça. Donc click and go.
L'effet rehaussé pas mal au niveau de la luminothérapie, je trouve que c'est joli, la lumière que ça dégage, c'est que ça fait une belle lumière dans la cuisine.
Une lumière bleue, évidemment, très...
optimisée pour la croissance des plantes. On remercie nos partenaires Microsoft, TELUS, Jura, GoDaddy.ca, le groupe C23 qui diffuse le podcast. Mm-hmm. Claude Hébert à la mise en onde. Merci Claude. Merci Alain Mekena, tu écris dans Le Devoir, entre autres.
Merci Pascal Forget.
Tous les talents balado de diffusion, de voiture, que d'émotion.
Oh oui, et merci à toi Pascal. Merci d'avoir été avec nous tout le monde. On se reparle bientôt. On prend une pause de fin de semaine parce que c'est quand même, faut savoir relaxer. Et on se revoit pour une prochaine épisode d'Une Tasse de Tech très bientôt. Salut tout le monde.
Bye bye.
C'est 23.